Vous écoutez le podcast des Escapades Animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain, et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leurs succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour à vous et bienvenue dans le 12e et dernier épisode de cette saison des Escapades Animalières. Alors c'était une aventure absolument formidable et je voulais très sincèrement remercier les différents intervenants qui sont venus. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part disant à quel point vous aviez aimé les interventions des personnes que vous avez aimées, que vous aviez aimé leur personne, leur engagement, leurs aventures. Donc je les remercie d'avoir été les premiers à me faire confiance pour cette émission qui part de zéro, qui part de nulle part. Et puis je voulais évidemment vous remercier vous, parce que vous êtes toutes les semaines, pour une grande partie d'entre vous, eh bien, au rendez-vous. Vous nous suivez. Alors, on a finalement reçu assez peu d'évaluations sur iTunes. C'est pas trop tard si vous voulez me donner une évaluation sur iTunes. En fait, on s'est rendu compte dans les statistiques tout simplement que vous nous écoutez sur plein d'autres plateformes et que vous n'avez pas la possibilité de donner 5 étoiles. Par contre, je suis extrêmement heureux quand je reçois vos messages et j'ai reçu beaucoup de messages, des emails, des messages vocaux et puis des messages sur les réseaux sociaux de personnes que je connais ou de personnes que je connais pas du tout et qui nous font leur retour d'expérience sur ce podcast. Et donc vraiment ça m'a motivé à continuer à vous proposer des interviews, des contenus les plus différents possibles les uns des autres. Donc je suis extrêmement heureux de vous annoncer qu'il y aura bien une deuxième saison des Escapades Animalières. Alors on va attendre un petit peu, on va se donner un petit peu de temps pour travailler cette émission, pour retravailler en fonction de tous les retours que vous avez pu me faire par email ou sur les réseaux sociaux, sur ce que vous aimeriez voir, entendre, sur les sujets que vous avez envie d'aborder. Et ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va avoir des intervenants absolument fantastiques, des invités que vous allez adorer écouter et qu'on va partir explorer plein de métiers différents, toujours en lien avec le monde animal et ou environnemental. On va partir explorer des métiers, des expertises, des sensibilités différentes et on va partir dans une grosse exploration ensemble. Donc rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois à peine pour la saison 2 des Escapades Animalières. En attendant, évidemment, l'aventure continue sur le site des entrepreneurs animaliers, entrepreneurs-animaliers tout au pluriel.fr, dans lequel vous verrez toutes mes publications, mes articles, etc., où vous trouverez pas mal de contenu. Pour ce 12e épisode, je me suis longtemps demandé qui j'allais inviter. Et puis j'ai relu un petit peu les différents messages que je recevais, j'ai demandé à quelques personnes et en fait je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais vraiment présenté à vous et que je n'avais pas pris le temps de vous expliquer pourquoi j'en étais arrivé là et qu'est-ce qui faisait que j'étais aussi passionné par ce métier. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de comment je suis arrivé à créer mon propre métier pour vivre de ma passion. Et pour ça, j'ai demandé à quelques personnes de m'envoyer quelques questions sur ce qu'elles auraient aimé savoir et quelles sont les questions auxquelles je pourrais répondre dans cette émission. Donc je les ai reçues et je vais y répondre dès maintenant. Alors la première question d'une amie qui s'est pas foulée quand je lui ai demandé est-ce que tu peux me proposer des questions. Elle s'est pas foulée, elle m'a dit « Qui es-tu ?» Et entre parenthèses, réponse courte. Alors, qui je suis ? Donc, je m'appelle Tristan Ferré, ça vous le savez, c'est marqué sur l'émission. Et par contre, la suite de la réponse est difficile. Aujourd'hui, je suis consultant, formateur, facilitateur et coach professionnel. Donc, j'accompagne et je forme des personnes qui ont des projets professionnels dans le monde animal. Ce sont souvent des personnes en reconversion. Je suis donc aussi chef d'entreprise. Et puis dans un tout autre registre, je suis aussi auteur, écrivain, chanteur, comédien, conférencier et surtout passionné des animaux, de la nature et de l'environnement. Deuxième question, et c'est une question que j'ai beaucoup posée à mes invités, donc je comprends qu'on me la retourne à moi-même. D'où vient ta passion pour l'animal ? Alors cette passion pour l'animal, elle remonte à assez loin, comme je pense comme tous les passionnés d'animaux, on peut retrouver quelque chose qui vient de l'enfance. Moi, je pense que ça vient de mon grand-père principalement, qui était paysagiste dans un parc zoologique à La Palmyre et qui a toujours été passionné par, alors pas que par l'animal en soi, mais par tout ce qui était environnement, tout ce qui était naturel, qui m'a transmis son amour des plantes, du jardin, etc. Même si je suis pas du tout un connaisseur de la botanique, moi je me suis plutôt orienté vers le monde animal, mais on va dire mêmes amours, même combat. Si on évolue un petit peu dans le temps, quand j'étais au collège, j'ai découvert un peu par hasard une asinerie. Et ça a été un deuxième grand déclic dans ma vie parce que j'avais une dizaine d'années à peine. Et à l'âge où normalement on demande plutôt à partir en vacances avec des copains ou à avoir une Game Boy, moi ce que j'ai supplié à mes parents, c'était le droit d'être bénévole pendant 2 mois dans cette asinerie. Donc j'ai travaillé à m'occuper des ânes, à faire beaucoup de nettoyage, à faire beaucoup d'entretien et puis à sortir les ânes. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers l'accueil des personnes qui venaient visiter. Donc je préparais les ânes qui partaient en balade, etc. Et puis j'ai commencé à découvrir ce qui était les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation animale, même si je ne mettais pas du tout des mots, des appellations sur cette pratique. Mais ça a été vraiment un moment de déclic dans ma vie parce que c'est ce qui m'a donné l'amour de l'animal. J'ai adopté mes premiers animaux juste sur cette période-là et je crois que j'en suis plus vraiment ressorti. Troisième question de la part de quelqu'un qui me connaît très bien et qui me dit, eh ben du coup, pourquoi tu ne travailles pas directement au contact des animaux? Alors, c'est vrai, si on reprend mon CV, entre guillemets, je ne me suis pas du tout orienté vers un métier animalier à la base. Le fameux je veux devenir vétérinaire, moi j'ai jamais voulu devenir vétérinaire. Très vite, j'ai voulu travailler dans un métier plutôt dans un aspect entrepreneurial ou commercial. Alors je me suis beaucoup cherché. Finalement, je suis parti dans une classe prépa. Vraiment l'opposé pendant 2 années. Et après ma classe prépa, j'étais admis dans une école de commerce en Île-de-France. J'ai passé des très très belles années. J'ai travaillé dans une junior entreprise pendant 2 ans. J'ai accompagné des entreprises. J'ai été aussi auditeur financier. Donc vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde animal. Mais il y a eu toujours beaucoup de frustration. En même temps que je vivais des choses absolument passionnantes, il me manquait quelque chose, c'était le monde animal. Et il a fallu, après quelques aventures, quelques mésaventures, il a fallu que j'ai un petit pétage de câble, comme je l'appelle. On a tous des moments dans notre vie où il y a la température qui monte trop, il y a beaucoup trop de pression et on a envie de desserrer un peu la vis et on décide de faire quelque chose un peu fou. Et dans mon cas, ça a été d'arrêter complètement ce que je faisais, de partir dans un pays complètement inconnu, avec une langue complètement inconnue pendant plusieurs mois. Et je suis parti en Amazonie. Du côté de la Bolivie, je ne parlais pas espagnol et c'est ça qui m'a, on va dire, ramené vers le monde animal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne travaille toujours pas directement au contact d'animaux, au sens où je ne suis pas soigneur animalier, je ne pratique pas aujourd'hui la médiation animale, je ne suis pas un animateur en ferme pédagogique, alors que ce sont les métiers que je défends et que je conseille au quotidien. Et en fait, derrière ça, je me suis posé 2 questions en fait. Je me suis posé la question du sens de ce que je faisais et je me suis posé une question de où est-ce que je serais le plus utile. Et je pense que la réponse est en chacun. Moi, je ne me suis pas retrouvé dans l'idée que je serais le plus utile dans la pratique de la médiation animale ou dans la pédagogie environnementale, etc. Je me suis senti utile dans un métier où j'étais capable de mettre à profit tout ce que j'avais appris en école de commerce. Alors le mot commerce est un peu galvaudé, mais en fait on apprend surtout le management, on apprend l'entrepreneuriat, on apprend des techniques de gestion de projet. Et j'ai voulu mettre tout ça au profit du secteur qui me plaisait, qui était le monde animal et environnemental, sans du coup être totalement dans l'opérationnel. Je préfère accompagner des projets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accompagné une centaine de projets. Alors, ça tombe bien parce que ça m'emmène à la question suivante qui était quelles études as-tu fait? Donc, bah, du coup, j'y ai un peu répondu. Donc, moi, je suis diplômé d'un master en entrepreneuriat et en entrepreneuriat social. Et je n'ai pas de diplôme animalier en particulier. Moi, toute mon expérience du monde animal s'est construite au fil du temps, avec mes expériences plutôt qu'avec mes études. Que, à part quelques petites formations par-ci, par-là, comme de la CACED, comme des petites formations en médiation animale, etc., évidemment. Mais voilà, j'ai pas un diplôme universitaire en éthologie ou quelque chose comme ça. Quelle histoire peux-tu nous raconter dans le monde animal? Alors ça, je voulais le garder pour la petite lecture, mais ce que je peux dire déjà pour répondre à cette question, des histoires là tout de suite dans des expériences qui ont marqué un petit peu mon projet de vie, ma carrière, j'en ai deux. J'en ai une première que j'en parle pas très souvent, mais qui, je pense, a eu un vrai impact sur ce que je fais aujourd'hui. C'était des remplacements dans une ferme pédagogique dans le sud de la France, en Ariège. C'était une famille franco-américaine qui avait une petite ferme pédagogique dont l'objectif était de créer des immersions, des journées d'immersion en anglais pour des jeunes. Et ces personnes-là partaient régulièrement aux États-Unis pour retourner dans leur famille, etc. Et j'avais un âne qui était en pension là-bas. On m'a demandé d'abord de garder la ferme, de tenir la ferme pendant une ou deux journées, puis ensuite quelques jours. Et puis finalement, je me suis occupé de toute l'activité pendant un été. Et ça a été extrêmement formateur, parce que je me suis retrouvé dans le bain, tout seul, à devoir gérer. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai absolument adoré. Bon, heureusement, on m'avait un peu facilité la vie. J'étais encore très très jeune. Mais ça a été un des premiers éléments déclencheurs. Et puis la deuxième activité ou la deuxième anecdote la plus, c'est probablement même la plus folle de ma vie, c'est justement ce voyage en Bolivie et notamment dans la partie amazonienne, où là j'ai été bénévole soigneur animalier dans deux refuges associatifs. Le premier, je me suis occupé d'un ours. Alors il était en captivité parce que sa mère avait été tuée par des braconniers et que c'était un ours qui n'avait pas pu apprendre les codes de la vie sauvage et qui était condamné à la vie en captivité, qui ne pouvait pas se débrouiller en liberté. Et donc l'association s'en occupe depuis toujours et jusqu'à la fin de ses jours. Et puis je me suis occupé aussi de plusieurs singes araignées. Et c'est des aventures assez impressionnantes que j'ai vécues parce que j'avais finalement assez peur de ces animaux. Donc c'était vraiment des expériences formidables pour moi parce qu'on n'était pas du tout dans un esprit parc zoologique ou quoi que ce soit. On était au plus près des animaux dans la forêt amazonienne à s'occuper d'eux. Et puis j'ai travaillé aussi dans un autre refuge avec des pumas. Et ça m'emmène justement à cette lecture que je voulais vous proposer dans ma propre carte blanche. Alors, ma carte blanche, elle est extraite d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle Le Pacha sans sa mama, Voyage solitaire en Bolivie. Donc, ce livre retrace le fameux pétage de câble que j'ai pu avoir à une époque, une envie d'ailleurs, et ce fameux voyage en Bolivie dans la partie amazonienne. Je vous lis un extrait du livre qui retrace mes derniers jours dans le parque Machia, dans lequel je venais de passer plusieurs semaines à m'occuper d'un ours, ce fameux ours en captivité qui s'appelle Balou, et de m'occuper de certains singes. Et ces singes, il faut savoir qu'ils étaient en semi-liberté, donc la grande majorité d'entre eux étaient en liberté totale, dans la forêt, et on venait simplement pour les nourrir et pour vérifier que tout allait bien. Et puis certains vivaient malheureusement soit dans des grandes volières ou dans des sortes de cages, parce qu'ils étaient dangereux pour eux-mêmes ou dangereux pour le reste du groupe et qu'ils ne pouvaient pas vivre en liberté. Et puis un qui s'appelait Octavio vivait au bout d'une corde, parce qu'il était extrêmement dangereux. Il était reconnu comme dangereux et on ne pouvait pas faire autrement dans l'association. Donc je vous lis ce passage. La suite du petit déjeuner arrivait. J'avais apporté un sachet rempli de cacahuètes, des tas de fruits et une noix de coco que j'avais trouvée au pied d'un arbre près du camp. Je la lui donnais en premier. À ma surprise, Manu arriva à ce moment-là pour faire lui aussi ses adieux à Balou. Il s'assit à côté de moi. Balou était excité à l'idée de nous voir tous les deux. Peut-être pensait-il recevoir une double ration. J'étais heureux de partager mes fruits avec mon ami, et l'un après l'autre, nous offrîmes son repas à notre gros Balou. J'étais triste de le quitter. Je me souvenais des bons moments et de nombreuses frayeurs que j'avais eues avec lui. Il m'aura sûrement aidé à prendre un peu de confiance et évidemment m'aura apporté une expérience que je ne pourrai jamais oublier. Je me demandais s'il se souviendrait de moi. Le pauvre avait vu passer tellement de volontaires, tous tentant eux aussi de lui donner l'amour et l'attention qu'ils pouvaient. Simplement pour lui offrir une vie meilleure que celle qui lui avait été destinée le jour où on lui retira sa mère et sa liberté. Pauvre Balou, toi qui n'as rien demandé, j'espère qu'à l'heure qu'il est, tu es enfin dans cet immense enclos rempli de verdure, d'arbres et de rochers qu'on te promet depuis des années. Sache que tout autour du monde, tu as des tas d'amis qui t'aiment et te protègent comme ils le peuvent. Il était temps de partir. Je pris quelques photos, bien que la plus belle de toutes ne se capture pas au moyen d'un appareil. Je montai une dernière fois, chargé comme une mule, au territoire des singes. Je n'étais pas particulièrement joyeux cet après-midi-là. La seule envie de quitter le parc occupait tout mon esprit. J'avais remarqué depuis quelques jours que l'ambiance s'était un peu assombrie. Cependant, j'avais trouvé ici quelque chose que je n'avais jamais trouvé plus tôt. Je ne voulais pas non plus quitter les singes. J'avais encore tant à leur apporter, davantage encore pour ceux qui n'étaient pas en liberté. Comme il doit être difficile de passer sa vie au bout d'une corde, aussi longue et sophistiquée soit-elle, elle reste une corde. Je m'assis près d'Octavio et tentai de m'imaginer à sa place. Là, à quelques mètres de sa limite, se trouvait un arbre. Au bout de son large tronc se dressaient quelques branches, envahi de lianes, qui avait élu domicile d'une façon tout à fait anarchique. L'une d'elles avait probablement plusieurs années de vie derrière elle. Elle créait une sorte de passerelle entre deux branches très espacées. Guarayos et quelques-unes de ses groupies s'amusaient toujours sur cette liane, la traversant chacun à leur tour. Il y avait probablement même d'autres espèces de singes dans cet arbre. On croisait souvent des capucins ou des singes écureuils dans les parages. Des perruches vertes ou jaunes venaient aussi probablement s'y percher. Il devait y avoir tellement d'odeurs à y découvrir. La vue donnait peut-être sur la rivière et sur le village. J'imaginais un prisonnier à qui on offrait une baie vitrée et un tout petit bout de plage. J'imaginais ce qu'il pourrait ressentir de boire une eau de rivière, pleine de couleurs et de minéraux. J'imaginais ce que ça pouvait être d'avoir la possibilité de faire son chemin pour trouver la mère de ses enfants. J'imaginais ce que sa vie aurait été si la terre se vidait enfin des braconniers qui volent des vies pour les revendre à bon prix à des notables égoïstes cherchant à redécorer leur salon. Du bout de sa corde, Octavio aurait le même repas le matin, le même repas le soir. Son unique variable, le seul élément qui pouvait faire de ses jours des jours différents, c'étaient les volontaires. Je me sentis affreusement désolé de partir. Octavio s'approcha et grimpa jusqu'à dans mes bras. Il poussa un petit cri, signe de bien-être, et me regarda de la même manière qu'il le faisait depuis le jour où il m'avait permis de le rencontrer. Il ne semblait ni triste, ni affecté. Il avait compris que je l'étais davantage et me donna toute l'affection qu'il put. Puis, comme pour me dire qu'il ne m'en voulait pas, il partit de lui-même dans son arbre. Je ne dis pas un mot et partis dans la direction opposée. Voilà, c'était un passage un petit peu long, mais je voulais absolument vous le partager parce que pour moi, il était très cohérent avec le dernier épisode que vous avez écouté, l'épisode 11, où on parle de faune sauvage et on parle de braconnage. Et le braconnage a des conséquences évidentes sur les animaux qu'on tue ou qu'on enlève, mais il a aussi des conséquences parfois définitives sur certains animaux en dommages collatéraux, notamment les orphelins ou les animaux qu'on laisse sur place. Et dans cet extrait, je pointe du doigt les conséquences désastreuses de l'action humaine sur certains animaux qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent quasiment condamnés pour toute leur vie. Allez, on passe maintenant à la dernière partie de cette émission. Alors, habituellement, vous savez, on parle d'entrepreneuriat. Alors, ça tombe bien puisque le projet que j'ai lancé il y a plusieurs années, et c'est l'entreprise qui me fait vivre aujourd'hui, s'appelle les entrepreneurs animaliers. Alors, je voulais surtout pas vous faire une émission catalogue en vous disant à quel point ce que je fais c'est magnifique et qu'il faut absolument passer par les entrepreneurs animaliers pour tous les problèmes que vous avez. Ce que je voulais, c'était finalement partir un peu aux origines du projet et le pourquoi j'en suis arrivé dans ce projet-là. Alors, si on remonte un petit peu à la fin de mes études, j'étais encore dans une optique de séparation entre ma passion animale et puis le métier que j'allais faire. C'était pas extrêmement cohérent, mais je le voyais comme ça et je l'acceptais tel quel. Donc j'ai travaillé 2 années dans un secteur très financier à expertiser les comptes de plein d'entreprises. C'était plus possible au bout d'un moment. J'ai tenté de lancer un premier projet un peu entrepreneurial. Ça n'a pas marché, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Et puis, les obligations ont fait que j'ai décidé de. Enfin, j'ai postulé à un emploi et j'ai trouvé un travail de directeur dans l'économie sociale et solidaire. Ça s'est bien passé pendant quelques temps et puis au bout d'un moment, ça s'est dégradé pour pas mal de choses. Mais je me suis rendu compte petit à petit que j'étais peut-être pas fait pour ça, peut-être pas fait pour qu'on me donne des ordres, tout simplement, mais aussi que j'avais besoin de reprendre contact avec ce qui m'animait au quotidien. C'était plus possible à cette époque de me dire, j'ai d'un côté ma passion pour le monde animal, pour l'environnement, je défends des valeurs, etc. Et puis je relègue ça au soir, au week-end et aux vacances, et le reste de la semaine, j'ai une autre ambition, une autre casquette. Il fallait que je remette de la cohérence dans tout ça. J'ai eu un gros passage à vide, du coup, où je me suis posé tout un tas de questions à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis un jour, j'ai eu l'idée d'appeler 2-3 personnes pour leur dire voilà, des personnes que je connaissais dans le monde animal, évidemment, dans ce milieu un peu fermé, dans des parcs animaliers, dans des petites fermes pédagogiques, etc. Et leur dire voilà, je suis à disposition, voilà qui je suis, moi j'ai des compétences entrepreneuriales, je sors d'école de commerce, je sais regarder les comptes d'une entreprise, je sais expertiser du juridique, voilà, j'ai cette casquette-là, est-ce que je peux vous être utile? J'avais pas vraiment de recherche en particulier, je m'attendais pas à ce qu'on me demande une mission en particulier. Et puis finalement, on m'a proposé d'accompagner une personne. Évidemment, j'ai fait un peu ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que je l'ai accompagné de manière gratuite. Puisqu'aujourd'hui, si vous êtes accompagné par moi, je vous dirai toujours que c'est surtout quelque chose à ne pas faire. Mais au final, ça m'a aidé parce que j'ai été un peu esclave d'un projet qui n'était pas le mien et j'ai travaillé sur quasiment toutes les fonctions. J'ai aidé ce projet à se lancer commercialement, j'ai cherché ses premiers clients, j'ai regardé toute la partie procédure, toute la partie sanitaire, la partie sécurité d'un lieu qui allait ouvrir au public. Et puis on a beaucoup parlé de pédagogie, de médiation animale. En fait, j'ai accompagné cette personne sur quasiment toutes les fonctions, toutes les casquettes qu'elle allait être amenée à faire. Et puis, je me suis rendu compte de pas mal de choses. La première chose, c'est que j'adorais le secteur dans lequel j'étais, j'adorais ce que je faisais et que j'étais extrêmement légitime. Et ça m'a déjà enlevé un gros caillou de ma chaussure parce que je me suis rendu compte que j'étais légitime à travailler dans un secteur qui, à la base, n'était pas le mien. J'étais pas le fameux vétérinaire, j'étais pas le fameux soigneur animalier, et pourtant j'avais une légitimité dans ce secteur-là. Et puis la deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'était plus question de faire l'opérationnel à la place des personnes. Parce que ça marche pas, parce que être le commercial de quelqu'un, ça me plaisait pas du tout, et que ça n'a aucun intérêt si la personne n'est pas capable de se vendre, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et donc petit à petit, en fait, j'ai transformé ce qui était un accompagnement individuel, je faisais à la place d'eux, par finalement de la formation professionnelle, où j'ai accompagné les personnes pour leur expliquer comment elles devaient faire les choses, comment elles pouvaient le faire, quel était le champ des possibles et leur transmettre un certain nombre de compétences pour les rendre autonomes, pour les rendre plus libres et indépendantes de moi tout simplement, ne pas faire en sorte à ce que ces personnes soient dépendantes de moi. Et j'ai absolument adoré. Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de personnes que j'ai accompagnées dans le lancement de leur projet, dans leur projet animalier évidemment. Et ce qui me plaît au quotidien, c'est pas de faire les choses à leur place, c'est de leur donner les clés pour qu'elles puissent le faire. Donc dans les formations que je propose, on a toujours un moment où je leur montre des choses et puis après, on leur donne je leur donne les éléments et c'est à elles de le faire. Et typiquement, dans une question d'animation pédagogique, je ne vais pas vous donner la recette de cuisine d'une animation, mais je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut créer sa propre recette de cuisine. Et c'était important pour moi que je vous explique ça, même si c'était pas. On n'est plus dans une logique, on parle plus d'animaux à ce moment-là, mais on parle d'entrepreneuriat. Et c'est tout simplement que moi, j'ai trouvé ce qui me plaisait, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé le. En fait, le métier que je fais aujourd'hui n'existe pas en soi, du coup, je l'ai créé. J'avais envie d'être au service des autres et je suis devenu cette espèce de d'hybride entre un consultant, un formateur, un coach, parfois un peu un confident parce que les personnes me parlent beaucoup de leurs problèmes et j'essaie de les aiguiller. Et puis aussi, j'essaie de créer un réseau pour pouvoir aussi ouvrir des portes aux personnes. Donc c'est ce qui me plaît au quotidien, c'est pour ça, pour répondre à la première question, enfin une des questions que j'ai traitées au tout début de cette émission, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas moi-même au quotidien avec des animaux, c'est qu'en fait, moi ma passion c'est d'accompagner d'autres porteurs de projets. Alors évidemment, là je suis en train de vous parler du début des entrepreneurs animaliers, petit à petit on a ajouté beaucoup de briques aux compétences, on a ajouté des équipes, on a ajouté une structure, ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable à 100% de former quelqu'un aussi sur de la technique, aussi sur des compétences métiers, que ce soit des techniques d'animation, de médiation animale, la connaissance des publics, la connaissance des animaux, des espèces domestiques, etc. Et sur des techniques, enfin sur des métiers ou des compétences très spécifiques. En d'autres termes, on a élargi nos capacités de formation et d'accompagnement. Mais voilà, c'était vraiment ça au début qui a fait le succès des entrepreneurs animaliers et c'est beaucoup pour ça qu'on me contacte aujourd'hui. Souvent, les personnes au téléphone, quand je les ai, elles me disent, voilà, j'ai comparé différentes formations, prenons un exemple de médiation animale, et ce qui me plaît chez vous, c'est pas forcément. Oui, alors vous avez la formation médiation animale, mais ce qui me plaît, c'est aussi la capacité à en vivre. C'est la question de la viabilité du projet. Et moi, c'est très important dans mes formations d'accompagner les personnes sur comment est-ce qu'elles vont faire pour pouvoir vivre de leur passion. Je ne cache pas la vérité, c'est-à-dire que je leur dis que ça va pas être facile, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il faut se faire violence, que ce ne sont pas des choses qui sont digestes. Dès le début, une forme, quand on n'est pas, quand on n'a pas vocation à être commercial, c'est pas facile de se faire violence et de se dire là, je dois être mon propre commercial. Mais c'est un passage obligé si on veut que les personnes puissent vivre de leur projet, parce que ça ne peut plus être un tabou aujourd'hui. Et vraiment, si c'est peut-être la plus grande fierté que j'ai dans les entrepreneurs animaliers, c'est d'avoir dans ce milieu-là cassé un tabou. Qui gangrenait un peu ce secteur, qui était que si vous avez choisi de travailler avec les animaux, c'est tellement fantastique que vous devez vous asseoir sur tout le reste. Vous ne devez pas pouvoir exiger de vivre de votre passion avec un salaire décent. Vous devez pas exi vous n'avez pas le droit de communiquer. Vous n'avez pas le droit d'utiliser certains mots qui sont extrêmement tabous, comme le marketing, comme les tarifs. Des choses comme ça. Ce sont des mots qui étaient vraiment. Moi, je me souviens quand je me suis lancé au début, c'est des mots qui faisaient peur et on ne m'aimait pas au début quand je donnais ce type de mots-là. Aujourd'hui, quand je parle avec les personnes que j'accompagne, ce sont certes des personnes qui travaillent profondément dans l'amour de l'animal, dans l'amour de la transmission avec l'humain, etc. Mais qui ont conscience que si elles veulent que leur projet fonctionne, eh bien, il faut que le projet soit viable et donc qu'il génère des revenus réguliers. Et c'est pour ça que les entrepreneurs animaliers fonctionnent aujourd'hui, c'est qu'on me fait confiance à la fois sur la technique, à la fois sur les métiers, la connaissance des publics et des animaux, mais qu'on me fait aussi confiance sur la capacité à rendre les projets viables et les faire exister tout simplement. Si on peut conclure sur cet épisode et sur l'intégralité de la saison, vous avez découvert tout un tas de personnes qui se sont lancées dans leur projet, qui se démènent pour vivre de leur passion et pour en faire un métier. Bien, c'est que si vous avez envie de tenter une aventure, eh bien tentez-la. Faites en sorte à ne pas vous mettre en danger, évidemment, mais le seul moyen de savoir si ça marchera, eh bien c'est de tenter. Si vous ne savez pas vers quelle direction vous allez, eh bien lisez des blogs, lisez des livres, cherchez des commentaires, cherchez des témoignages de personnes, et vous trouverez beaucoup de témoignages, bah déjà dans cette émission évidemment, et puis sur le blog des entrepreneurs animaliers, où on rassemble beaucoup d'articles, beaucoup de témoignages. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, et puis ce à quoi vous êtes le plus utile dans cette société pour donner du sens à votre projet de vie et à votre projet de carrière. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième saison des Escapades Animalières. Portez-vous bien.